l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
13 ans après son premier film Coco, Gad Elmaleh se remet derrière la caméra avec un film très personnel, Reste un peu, qui sera sur grand écran le mercredi 16 novembre. Le film explore la crise de foi, ou plus précisément la conversion du personnage de Gad Elmaleh, joué par Gad Elmaleh, tout comme ses parents et ses proches. Une comédie qui brouille les pistes et qui, même si elle paraît légère, explore le poids de la religion, ses traditions et notre libre arbitre face à l'éducation religieuse. Nous avons rencontré Gad Elmaleh lors de sa venue à Strasbourg pour l'avant-première du film. Alors, à l'heure où l'évocation des religions, des pratiques, des communautarismes, et oui, on en parle aussi, suscite beaucoup de débats, vous avez mesuré ce que vous pouviez dire ou non. C'est des choses que vous avez pesées au moment de faire votre scénario.
Oui, bien sûr. Après, il y avait une volonté d'être un peu libre. C'est un peu le rôle d'un metteur en scène et d'un réalisateur. Bien entendu que je mesure aussi le fait que, bien entendu, avant de voir le film, je dis bien avant de voir le film, on peut se dire « Ouh là là, il touche à un sujet qui crispe quand même, c'est chaud ». On est dans un pays où l'évocation tout simplement de la religion ou de la foi, elle crée un débat avant même de savoir de quoi on va parler. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la bande-annonce de mon film, de la part des mêmes personnes, quelle que soit leur confession, qui voient la bande-annonce ou qui voient le film, c'est absolument pas la même réaction. Quand ils voient le film, ils voient que c'est un développement vraiment avec de la nuance, avec de l'humour, que c'est une comédie, qu'il y a de la fiction. Mais quand ils voient la bande-annonce, surtout les Juifs, ils disent « Aïe, 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 qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je dis « Regardez le film et on en parle après. »
C'est la réaction, c'est de la communauté juive?
Ouais, je la caricature.
Les religions aussi sont souvent caricaturées.
Je la caricature. Et d'ailleurs, je caricature quelques petites choses aussi avec beaucoup de dérision et d'humour dans le film. Après, ce qui était important pour moi, c'était d'aller au bout de ce sujet dont j'ai envie de parler. Et aussi, faire quelque chose de profondément juif, c'est d'interroger ma propre identité et d'être dans une quête talmudique de la... Il y a une tradition du débat dans l'étude et dans le Talmud. Avec d'autres. Là, je la fais avec moi. J'ai une auto-marloquette.
Vous êtes allé au bout, vous, de cette recherche de votre foi, de votre spiritualité?
Au bout, jamais, non, parce que je pense qu'on n'a jamais fini. C'est ce que dit mon père dans le film quand il dit, quand je lui dis, mais c'est un chemin, parce que mes parents s'inquiètent, parce qu'on le sait. Et puis, le séisme que ça crée dans une famille séfarade traditionnaliste, un enfant qui s'intéresse au christianisme. D'ailleurs, les scènes les plus comiques, c'est quand les parents pètent un plomb dans le film. Mais comme le dit mon père pendant la scène du Shabbat dans le film, quand ils sont là à me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire avec la Sainte Vierge et tout ? Mais tu pars en vrille, mon pauvre fils. » Et je lui dis « Mais c'est un chemin. » Et il me dit « Puisque tu parles de chemin, est-ce que tu crois que dans le judaïsme, tu as exploré tous les chemins ?» Et en fait, c'est cette parole de sagesse que je voulais écrire de mon père, qui est une parole de bienveillance, mais qui est une parole juive aussi, qui est une parole de « on n'a jamais cessé d'étudier et on n'a jamais cessé d'apprendre ». Après, je pense qu'il faut qu'on s'ouvre plus vers les autres, si on veut que les autres nous acceptent et les autres s'ouvrent à nous. Moi, je viens d'une famille traditionnaliste et j'ai fait la yeshiva, j'ai fait des études talmudiques. J'ai appris la Mishnah, la Gemara, j'ai appris à lire et à écrire l'araméen, dans un pays arabe. C'est assez rare. Le modèle juif marocain, il est assez rare. Donc, j'étais en contact très tôt avec l'irrationnel, avec la spiritualité, avec la foi, avec l'idée de Dieu. Donc, c'est pour moi, non pas plus facile, mais j'ai une curiosité qui est déjà aiguisée à l'égard de la foi. Et je cherche. Et comme dans le film, j'en parle, ma crise de la cinquantaine, elle se porte plus sur la spiritualité que sur le permis moto.
Cette Sainte Vierge que vos parents, donc on y reviendra tout à l'heure, vos parents qui jouent leur propre rôle dans le film, c'est juste incroyable, ouais. Ça, d'avoir réussi à les mettre devant votre caméra. Ouais. Et ils sont eux, on le sent, moi, je les suis un petit peu sur Instagram, votre maman, ouais. Elle est juste extraordinaire. Ouais. J'ai très envie de goûter à son couscous d'ailleurs.
Ouais, elle est forte.
Mais c'est vrai que cette scène où ils découvrent cette Sainte Vierge, c'est quoi cette Sainte Vierge? C'est une métaphore, vous vouliez dire quoi?
J'ai envie de dire que déjà, l'idolâtrie dans la culture juive et la religion juive, c'est une faute très grave. C'est-à-dire que la notion de Avodah Zarah, comme on dit, c'est quelque chose qui est très, très grave. Qui est... D'abord, c'est le premier des commandements. Sur l'étape de la loi, il y a un commandement, c'est Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'adoreras aucun autre Dieu et tu n'adoreras pas des idoles. Et... Donc, il y a un passif avec les idoles et avec ce péché-là. Quand les Juifs attendent l'étape de la loi et qu'ils se mettent à s'impatienter, qu'ils se mettent à adorer un veau d'or et qu'ils pètent un plomb, c'est là qu'on on se dit qu'il y a un problème. Et on a gardé, nous, des réflexes, et les parents, ils ont gardé ce réflexe. De quoi je parle ? Je parle aussi de la superstition. Moi, je le dis franchement, hein, je le dis partout, et je le dis sur votre radio aussi, je n'ai pas de problème à rentrer dans les églises. Moi, je suis voilà, de religion juive, d'éducation et de culture juive, j'ai aucun problème à rentrer dans une
et
église.
Et de rentrer dans un temple hindou, bouddhiste,
mais
c'est
oui,
pareil.
Mais complètement, en fait, même dans une mosquée, il est où le problème ?
Mais la mosquée, on avait compris qu'avec avec votre culture marocaine,
oui.
C'est intimement lié à la culture et juive et,
oui,
et islam.
Oui, mais je dois dire qu'on a plus, on va dire que dans le monde dans lequel on vit, on va dire que on côtoie les églises parce que les événements ils sont plus malheureusement plus fréquents. Des fois, c'est même des situations un peu tristes. D'abord, tout ce qui est. Un jour, j'ai dit à un ami juif pratiquant qui m'a dit mais t'es rentré vraiment dans l'église pendant le film. J'ai dit oui et il m'a dit ben moi j'ai perdu un de mes meilleurs amis qui est pas juif et j'ai pas pu assister à ses obsèques. Et je dis mais pourquoi t'as pas assisté à ses obsèques ? Dieu ne va jamais te punir d'avoir rendu un hommage à quelqu'un à qui tu as donné de l'amour dont t'as pris de l'amour et que enfin c'est complètement fou quoi. Après bien sûr il y a des rabbins peut-être qui sont en train de nous entendre et qui peuvent opposer la halakha, la loi, mais moi je pense que la loi elle est faite aussi pour être interprétée comme le peuple juif l'a fait depuis la nuit des temps et moi j'ai envie de l'adapter. Ça veut dire que j'ai pas envie de m'empêcher de rentrer dans un lieu de culte d'une autre religion sous prétexte que c'est grave, c'est interdit, c'est moi je rentre, je ressors. Je change pas quoi.
Et vous faites le distinguo entre justement la foi, la spiritualité
oui.
Et les bondieuseries. C'est ça.
Mais les bondieuseries, c'est un terme inventé par les catholiques.
Ah non, c'est un rabbin qui m'a dit cette expression.
Ah ouais, c'est vrai.
Je déteste les bondieuseries.
Les bondieuseries. Ah ouais, c'est assez péjoratif. Les bondieuseries, je vois très bien. Bien sûr que je vois très bien et j'arrive à discerner, c'est très important. Mais j'arrive aussi à discerner ce qui est un égarement d'une exploration. Moi, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un d'animé aussi par cette volonté un peu provocatrice de jouer avec le feu. J'ai pleinement la conscience que je joue avec des éléments qui sont un petit peu... C'est un côté jeux interdits, quoi. Il y a un côté, tu joues avec... Mais j'ai volontairement écrit cette scène pour ça. Quand mon père dit à ma mère cette chose absurde, ne touche pas avec les doigts, c'est le truc le plus feuge. Il voit une Vierge Marie, il dit ne touche pas avec les doigts. C'est mettre de l'humour dedans, c'est mettre de l'amour dedans, c'est mettre aussi...
C'est la méconnaissance aussi, parce que quand on rentre dans une synagogue et qu'on n'est pas au fait, on ne peut pas toucher au rouleau.
Non,
ça, c'est
vrai.
Quelque chose qu'on nous dit aussi, surtout ne touchez pas.
Ne touchez pas. Et pourquoi ? Il faut... Oui, alors il y a le sacré, mais le sacré, il faut le distinguer de la superstition. Et bien souvent, plus chez les séfarades, il y a une notion de superstition. Si je fais ça, Dieu va faire ça. Si je ne fais pas telle mitzvah, Dieu va me punir. Dieu, une espèce de comptabilité comme ça qui moi me... Alors elle existe aussi chez les cathos et amplement avec la notion même très binaire d'absolution, de confession. Je préfère la notion, même si je préfère la notion du pardon. Je me rappelle un jour un rabbin m'a dit la différence entre les catholiques et les juifs avec le pardon, c'est que quand un catholique va se faire confesser, le prêtre lui donne l'absolution. Et voilà, il est pardonné, c'est reset, on remet les comptes à zéro. Un rabbin dit à la personne qui vient se confier à lui, même si la notion de confession n'existe pas dans le judaïsme, lui dit, va d'abord te faire pardonner par la personne à qui tu as fait du mal, et Dieu après va te pardonner. J'aime cette notion-là, ça c'est important. Mais j'explore les deux, et c'est génial.
On va parler du film et du fait que vous ayez fait jouer vos parents. Vous leur avez proposé ce rôle, enfin leur propre rôle,
ouais.
ils jouent, ils surjouent, ils sont eux-mêmes, comment ça se passe ?
Dans le film, il y a des choses vraies dans l'histoire et des choses ouais. Pas vraies. Je ne vous dirai pas lesquelles, mais je dois dire que le point de départ est vrai. Je suis gamin à Casablanca, on me dit tu ne rentres surtout pas dans cette église, à Saul, c'est péché, jamais tu rentres là-bas. Eh bien, moi, j'ai 5-6 ans, je rentre là-bas. Et je vois la statue de la Sainte Vierge et elle me marque, ça c'est vrai. Ensuite, pour jouer mes parents, je me suis dit, mais en faisant lire le scénario, première version à mon producteur Isaac Chary, je me rappelle, j'avais un personnage qui s'appelait Joseph, qui était moi, puisque c'est mon deuxième prénom, qui était un romancier, qui écrivait un livre à travers lequel on pouvait deviner qu'il était intéressé par la Sainte Vierge, l'image de la Vierge Marie, et que... Et il se posait des questions sur le christianisme, la suite d'une expérience mystique. Et Isaac m'a dit, mais t'es en train de parler de qui? De toi? Pourquoi c'est pas toi? Pourquoi tu te mets pas en scène sur... Et va directement. Va directement. Et après, avec le scénariste Benjamin Charbit, on s'est dit, va directement. Et en fait, ça a été une escalade vers la vérité, vers l'authenticité. De ce personnage qui est devenu moi-même, je devais donc créer ces personnages de mes parents, puisque la confrontation vient des aînés et des parents. Et donc, je me suis dit, qui je vais ? Ben, je vais prendre mes parents, puisque mes parents, on les voit sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez mentionné, parce que mes parents, ils ont aussi, à leur manière, une certaine forme d'un talent qui leur appartient, qui peut apporter de la comédie. Donc, j'ai proposé à mes parents. Mais ce n'est pas uniquement mes parents. Le rabbin, c'est un vrai rabbin. Le prêtre, c'est un vrai prêtre. La sœur, c'est une vraie sœur. Ma sœur est une sœur. L'ami d'enfance, c'est un ami d'enfance. Donc, tous les gens qui sont dans ce film sont vrais.
Et Delphine Horviller, qu'on retrouve également.
Et Delphine Horviller, qui est devenue mon amie, qui est devenue ma sœur, un autre type de sœur, ni la sœur catholique, ni la sœur, ma sœur de sang dans le film, mais qui est devenue une amie très proche, à qui je me confie régulièrement sur mes questionnements par rapport au judaïsme, et qui fait partie de ce dont moi je suis fier en tant que juif, sur l'évolution de notre religion, la lumière qu'on peut y mettre, pour l'ouvrir, parfois l'adapter, parfois voilà, un peu être en mouvement, comme elle dit elle, un judaïsme en mouvement, un judaïsme parfois qu'on réforme peut-être. Voilà, donc Delphine Horviller, elle dit une phrase incroyable dans le film.
On n'en sort jamais.
Ouais, ça. La maison juive, on
en sort jamais.
Nombreux, on en cherchait la sortie et on ne l'a jamais trouvée.
Elle a évolué.
Et la pensée juive, c'est... Pardon ?
Elle a évolué, cette pensée juive.
Elle a évolué, mais c'est surtout ce qui est beau aussi dans la pensée juive, c'est tu as le droit de chercher la sortie. Un jour, c'est ce que mon père m'a dit. Tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit d'explorer tous les chemins que tu veux. C'est ce que dit ma sœur aussi. Va allumer tous les cierges que tu veux, va voir Marie, va voir ce que... Mais reste avec nous. Ne t'en va pas, on est en train de te perdre. Elle le dit avec ses mots, elle. Et Delphine, elle dit, voilà, la maison juive, on en a cherché la sortie parce qu'on a voulu chercher cette sortie. Il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, une série de conversions des intellectuels juifs emblématiques. Bergson, Edith Stein, Simone Veil, la philosophe, Maurice Sachs. Il y a eu des conversions emblématiques qui ont même inventé un genre littéraire, le récit de conversion. Donc... Mais à chaque fois qu'ils ont eu du mal à trouver la sortie. D'ailleurs, ce sont des conversions sans baptême. C'est très intéressant. Ils étaient convertis de cœur, parfois par nécessité pour sauver leur peau pendant la Shoah. Pour moi, ça s'apparente à une conversion forcée, finalement. Quelqu'un qui se convertit à une autre religion pour rester en vie, bah, c'est une conversion forcée. Après, il y a des conversions de cœur, parce qu'ils veulent embrasser le christianisme. Et puis la figure du cardinal Lustiger, bien sûr, qui est évoquée plusieurs fois dans le film. Je ne veux pas tout raconter, je ne veux pas dire pourquoi. Mais je peux dire la phrase qu'il dit à la fin du film et que je cite, qui est importante. Je ne l'ai pas exactement en tête, mais en gros, le cardinal Lustiger avait dit « C'est ainsi qu'au cours de ma vie, en embrassant le christianisme, j'ai découvert les valeurs et les fondements du judaïsme. Je les ai comprises et je les serre contre moi, bien loin de les renier. » Et donc ça, c'est un chemin qui est très intéressant de la part d'un homme aussi... c'est un homme très important pour moi. Enfin, il a compté pour moi. Parfois, en rigolant, quand on me dit dans les interviews qui vous auriez aimé rencontrer, qui est plus de ce monde. Et plus ça va dans les années. Avant, je disais Michael Jackson. Après... Non, ça commence avec Jacques Brel, après Michael Jackson, après Charlie Chaplin. Aujourd'hui, je dis Lustiger.
Mais on ne vous appelle pas Jean-Marie, rassurez-nous.
Non. Je ne m'appelle pas Jean-Marie et je n'ai pas reçu le baptême.
Gad Elmaleh, merci infiniment.
Merci infiniment à vous.
C'était Gad Elmaleh pour son film Reste un peu, sorti le mercredi 16 novembre.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.